Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous, chers amis. Comme cela a été dit, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin et bonjour tout court à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Nous allons ouvrir la Bible, un livre unique, parce que c'est la parole de Dieu. Ça signifie que les hommes qui ont rédigé ce texte l'ont fait, non pas simplement suite à leur réflexion personnelle, mais suite à une révélation divine. Alors, on va lire dans l'évangile de Matthieu, qui est le premier des quatre, puisqu'il y a l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et nous lirons au chapitre 7. Bon, on va peut-être... Voilà. Chapitre 7 et le verset 13. Chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Alors moi, j'ai envie d'aller au ciel. Hein. Je veux que lorsque mon heure dernière sonnera, mes yeux se ferment sur les choses d'ici-bas et qu'ils s'ouvrent tout grand sur les réalités du royaume des cieux. Eh bien, si vous voulez aller au ciel, si vous voulez avoir la vie éternelle, il vous faut faire deux choses. Il vous faut passer par la porte étroite et il vous faut ensuite avancer sur le chemin resserré et, comme nous allons le voir, y poursuivre jusqu'au bout. Ce texte que nous venons de lire nous dit que la porte qui nous permet d'accéder au salut, à la vie éternelle, au ciel, est étroite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout d'abord qu'on ne peut la franchir qu'un par un. Si c'est une porte large, on peut y passer à trois ou quatre. Mais si c'est une porte étroite, eh bien on ne peut y passer qu'un par un. Ça signifie que, voyez-vous, le salut de notre âme, la possibilité d'entrer un jour dans le ciel dont nous parlons cet après-midi, est une affaire strictement personnelle et individuelle. La Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra chercher les siens, parce que Jésus revient. Alléluia. Ça, c'est l'évangile qu'il annonce à maintes et maintes reprises. Lorsque donc Jésus reviendra chercher les siens, il y a un tri, il y a une sélection qui s'opérera entre ceux qui l'auront accepté auparavant comme leur sauveur par une démarche individuelle et ceux qui ne l'auront pas accepté. Et lorsque Jésus reviendra, ceux qui l'auront accepté seront enlevés à sa rencontre pour le rejoindre dans le royaume des cieux, et les autres y resteront ici-bas avec toutes les contingences douloureuses qui s'y produiront, n'est-ce pas ? Et la Bible dit que ce jour-là, quand Jésus reviendra, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez ? L'Écriture dit que de deux hommes qui travailleront ensemble, par exemple, eh bien l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui accompliront quelques tâches ménagères ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Et même dans les relations les plus intimes entre mari et femme, deux personnes qui dormiront dans le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc tout ça pour démontrer, n'est-ce pas, que c'est une affaire vraiment personnelle, individuelle. Cet après-midi, vous avez la possibilité, si ça n'est pas fait encore, d'accepter Jésus comme votre sauveur, d'être ainsi sauvé, d'être pardonné de vos péchés pour aller le rejoindre au ciel un jour. Mais ça, ça vous regarde strictement, personnellement. Il ne faut pas dire, mais qu'est-ce qui va décider lui, qu'est-ce qui va décider l'autre? Non, 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 non. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à prendre et à maintenir un choix, une décision, un engagement que personne ne peut faire, que personne ne peut prendre à notre place. Voilà ce que ça veut dire, que la porte est étroite. Ça veut dire autre chose aussi. Si la porte est étroite, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous encombre pour pouvoir la franchir, cette porte. Hein? Supposez qu'il y ait une petite porte là, et que moi j'ai un énorme sac à dos, hein, rempli de toutes sortes d'affaires, et tant que je garde ce que j'ai sur le dos, hein, eh bien je ne peux pas franchir la porte. Il faut donc que je me débarrasse de mon fardeau pour pouvoir passer par cette porte étroite. Eh bien, en ce qui concerne le salut, c'est pareil. Pour aller au ciel, nous devons nous débarrasser de ce qui nous encombre. Alors, qu'est-ce qui peut nous encombrer? Qu'est-ce qui peut nous gêner? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de pénétrer dans le salut, de passer par la porte étroite? D'abord, il faut se débarrasser de l'illusion que nous aurions sur notre propre personne. Voyez, l'illusion sur l'efficacité de nos mérites. Il y a des gens comme ça, j'espère que vous n'êtes pas de ce genre, qui pensent que, eh bien, ils ont accompli au cours de leur vie des choses tellement remarquables, hein? Ils ont pratiqué tellement de bonnes œuvres, de bonnes actions, que Dieu ne pourra pas faire autrement que de les accueillir là-haut dans le ciel à bras ouverts. Eh bien, mes amis, détrompez-vous. Avec Dieu, voyez-vous, nous ne méritons rien. Et tout ce qu'il nous accorde, ça n'est pas un dû, mais c'est une grâce. C'est une faveur pour illustrer ce fait de la grâce imméritée de Dieu. Jésus a raconté l'histoire suivante de deux hommes qui montaient au temple de Jérusalem pour prier. Vous voyez, à cette époque-là, il est aujourd'hui détruit, mais il y avait ce magnifique temple qui avait été édifié bien des années auparavant et dans lequel les Israélites pieux allaient rendre un culte à l'Éternel. Et là, ces deux hommes, voyez, chacun était dans son coin. L'un était debout faisant étalage de ses bonnes œuvres, justement, disant « Je te rends grâce, au Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, adultères, injustes et tout le reste. Moi, Seigneur, eh bien, voilà, je donne aux deniers du culte, je jeûne deux fois par semaine, je pratique toutes sortes d'actes de piété. » Et il pensait comme cela, eh bien, s'attirer la faveur de Dieu. Et dans un coin, il y avait notre homme qui, le pauvre malheureux, n'avait que trop conscience de ses fautes, de ses péchés. Et cet homme s'écriait, se frappant la poitrine, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voyez ? Il se repentait de ses fautes, il s'humiliait devant Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui nous le dit, que celui-là est retourné dans sa maison justifié, c'est-à-dire ayant obtenu le pardon de Dieu, et l'autre, pas. Parce que Dieu n'a que faire de nos prétentions. Si donc vous voulez aller au ciel, eh bien, il ne faut pas vous présenter devant Dieu comme des gens méritants, mais au contraire comme des pécheurs qui ont besoin de sa grâce, de son pardon et de son amour, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par nos mérites, mais nous sommes sauvés seulement, exclusivement, par la grâce de Dieu que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. D'abord, Jésus lui-même dira, « Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » Ça veut dire, voyez-vous, que pour aller au ciel, nous devons uniquement nous en remettre, non pas à nos mérites, mais au mérite de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour que par son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Et si tout simplement vous lui dites, « Père, je ne mérite rien, je ne suis qu'un misérable pécheur, mais je te prie en ce jour de m'accueillir, de pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes péchés. Dieu vous fera grâce. Alléluia. » Si vous demeurez au contraire persuadé que, eh bien, vous êtes quelqu'un de remarquable, alors Dieu ne pourra pas vous bénir comme pourtant il voudrait le faire. Voyez, le salut, c'est son œuvre. Nous n'avons mérité rien ni quoi que ce soit, mais Jésus, mourant sur la croix, a tout mérité en notre faveur par sa vie parfaite et aussi, eh bien, par son sacrifice accompli en notre faveur. Il y a autre chose dont nous devons nous débarrasser pour pouvoir franchir la porte étroite et aller au ciel. Il faut se débarrasser de cette attitude qui consiste à chercher à plaire à recevoir l'approbation de nos semblables. Je vous le dis tout de suite, comme cela vous ne serez pas surpris, si vous vous décidez pour Jésus-Christ, si vous le choisissez comme votre sauveur, il y a des gens qui seront en parfait désaccord avec votre choix, qui ne vous approuveront pas, n'est-ce pas, et qui peut-être même et sûrement vous essaieront de vous dissuader de vous engager dans cette direction. Vous savez, déjà du temps de Jésus, la Bible dit que parmi ces religieux israélites, certains d'entre eux, en voyant les miracles que le Christ accomplissait, en entendant ces prédications fortes, n'est-ce pas, qui vous empoignaient le cœur, certains d'entre eux furent persuadés, convaincus que Jésus était vraiment le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Mais le texte auquel je me réfère, qui est écrit dans la Bible, précise qu'ils n'en firent pas l'aveu. Voyez, ils n'en firent pas l'aveu. Autrement dit, cette conviction qu'ils avaient dans le cœur, ils n'ont pas été jusqu'au bout, jusqu'au point de l'affirmer publiquement. Et ils aimèrent, ces gens-là, la gloire des hommes, c'est-à-dire l'approbation, la faveur des hommes, plus que la gloire, plus que l'approbation de Dieu. Ben, c'est une erreur. Ça. C'est une erreur. Lorsqu'on est convaincu qu'on a besoin de Jésus, il faut prendre le risque de déplaire. Non pas qu'il faille se fâcher avec tout le monde, ce n'est pas ce que je veux dire, évidemment. Mais souvent, quand on se convertit à Christ, disons-le tout clair et tout net, on se fait des ennemis. Jésus l'a dit dans sa parole, il a dit « L'homme ou la femme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et c'est vrai, parfois dans notre entourage, eh bien, il y a des gens qui sont vivement, parfois même violemment opposé au fait que nous nous convertissions. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer dans une secte, et ceci, et cela, et le reste. Je me souviens de cette chrétienne que nous avions dans le sud-ouest de la France. C'était une femme qui s'était convertie en Algérie. Et quand elle s'est convertie, oh là là, toute la famille lui est tombée dessus. On a même demandé à son ancienne institutrice de venir lui rendre visite pour essayer de la dissuader, de sortir de cette affaire, enfin, quand même. Mais comme c'était une femme de caractère, elle a tenu bon, elle est restée fidèle au Seigneur, et elle a bien fait de même. Qu'importe les critiques, les médisances, qu'importe la vive opposition, il faut tenir bon, comme la parole de Dieu nous y engage. Il vaut mieux obéir à Dieu, dit l'Écriture, plutôt qu'aux hommes. Et puis, il faut se débarrasser aussi d'autre chose pour passer par la porte étroite. Il faut se débarrasser du péché, c'est-à-dire renoncer définitivement et totalement à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà, et c'est lui, le Seigneur, qui nous en donne la force. Amen. C'est lui qui nous permet, n'est-ce pas, par sa grâce et son secours, de rompre avec les mauvaises habitudes du passé qui changent notre vie. Vous voyez, être chrétien, ce n'est pas simplement demander pardon de ses fautes, c'est renoncer au mal qu'on a pratiqué jusque-là. C'est changer de direction, c'est changer de route. C'est, n'est-ce pas, s'apprêter maintenant à accomplir la volonté de Dieu. Et je précise ceci, c'est que quand on a renoncé au péché, il faut que ce soit un renoncement, un abandon définitif. Il ne doit pas par la suite regagner du terrain, parce qu'il y a parfois des gens comme ça, vous voyez. Pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ils tiennent le coup et puis ils reviennent à leur misère passée. Écoutez ce que l'apôtre Pierre, qui avait son langage bien à lui, dit à ce sujet dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 20, n'est-ce pas, permettez que je vous lise ce texte où il est dit la chose suivante, n'est-ce pas? Voilà. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, c'est pas flatteur, mais c'est très évocateur. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait sevautré dans le bourbier. Il y a parmi nous cet après-midi des gens qui font leur premier pas dans la découverte de la foi chrétienne. C'est bien, c'est bien. Vous êtes passé par la porte étroite, gloire à Dieu. Et par la grâce du Seigneur, vous avez fait le ménage dans votre vie. Vous avez renoncé à un tas de pratiques mauvaises que la parole de Dieu vous a révélées comme étant justement contraires à la volonté de Dieu. Mais restez ferme dans cette prise de décision et ne soyez pas de ceux qui, eh bien, retournent à ce qu'ils ont vomi. Voyez, ne vous vautrez pas à nouveau dans le bourbier que vous avez fui parce que ce sera préjudiciable pour votre âme. Donc, la porte est étroite. La porte est étroite. Et puis, une fois qu'on a franchi la porte, on débouche sur le chemin qui mène, où ça ? À la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire sur un chemin ? Il faut marcher. Qu'est-ce que c'est marcher ? Marcher, c'est mettre un pied devant l'autre et puis recommencer. Et aller comme ça jusqu'au bout du chemin. Vous voyez ? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Le chemin nous dit Seigneur Jésus, dans le texte que nous avons lu en introduction, le chemin est resserré, étroit. Il dit même qu'il y a un autre chemin, large, spacieux, une véritable autoroute, vous voyez, à 5 ou 6 voies. Hein. Et là, il y en a beaucoup qui passent par là, mais ils vont à la perdition. Tandis que le chemin resserré, il y en a peu qui acceptent d'y cheminer, qui acceptent d'y marcher. Et ce chemin resserré, eh bien, il ne faut pas s'en écarter, il ne faut pas en dévier. Ne pas dévier, ne pas s'écarter du droit chemin, du bon chemin. Hein? Un jour, un homme qui s'appelait Josué, dans la Bible, a reçu ce conseil, que dis-je, cet ordre, la part du Seigneur. Il lui disait de ne s'écarter ni à droite, ni à gauche. Voilà. C'est-à-dire ne dévier, c'est pas, d'un côté ni de l'autre, mais de rester dans le chemin. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Dieu exige de notre part une obéissance scrupuleuse. Parce que la foi, c'est aussi une question d'obéissance. Ce n'est pas simplement une émotion. Vous voyez, il y a des gens, ils sont émotifs. Alors, ils veulent sentir, et je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, hein, des frissons dans le dos, je ne sais pas quoi. Vous voyez, ils sont un petit peu mystiques. Un peu. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une conviction intérieure, c'est une certitude qui s'empare de notre cœur et qui nous permet, eh bien, d'avancer dans une vie d'obéissance, de conformité à la volonté de Dieu. Hein? Et vous avez remarqué certainement que la nature humaine, elle a du mal à obéir. C'est quelque chose, ça, hein? Lorsqu'on a des enfants, beaucoup d'entre nous, je pense, nous en avons, vous savez très bien que ce n'est pas difficile d'obtenir d'un enfant un câlin, un bisou. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'obtenir l'obéissance. C'est pas vrai ? Les papas et les mamans. Voilà. Tu fais ce que je te dis, parce que c'est moi qui ai autorité sur toi. Tu ranges ta chambre, tu mets tes chaussures à leur place. Tu fais tes devoirs, tu fais ce que je te dis. Eh bien, l'obéissance, c'est profitable. Je réfléchissais tout à l'heure, et intérieurement, vous voyez, mes parents ne sont plus de ce monde, mais je pensais à ça, je leur étais reconnaissant pour les bons principes qu'ils m'ont appris, qu'ils m'ont inculqué, dans des choses élémentaires de la vie. Je me disais, mais si tu le fais maintenant, c'est parce que quand tu étais petit, quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, on t'a appris à obéir, à faire comme si, et finalement, eh bien, tu te rends compte que c'était une bonne chose. Et que ce qu'ils t'ont inculqué, eh bien, ça t'est profitable aujourd'hui. Eh bien, mes amis, avec Dieu, c'est pareil, vous savez. Si Dieu nous demande de lui obéir, ça n'est pas pour nous ennuyer. Dieu n'est pas un perpétuel empêcheur de tourner en rond. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut venir dans notre vie pour nous ennuyer. Ça n'est pas une espèce de tyran, de despote exigeant à l'extrême. Non, Il sait que l'obéissance nous sera profitable, que si nous tenons compte des commandements de sa parole, nous nous en porterons bien. Et oui, pourquoi la société va mal aujourd'hui? Parce qu'elle va mal. Hein? Sur le plan moral, sur le plan spirituel, c'est la délinquance. Tout part du mauvais côté. Pourquoi ça va mal? Eh bien, parce que les hommes se sont éloignés du standard, de la norme, de la règle que Dieu avait établie dans sa parole. C'est pour ça que ça ne tourne pas rond dans la société, c'est pour ça que ça ne tourne pas rond non plus au niveau des familles, au niveau des individus. Mais quand on revient à la parole de Dieu, et quand on se décide à la mettre en pratique, c'est vrai sur le plan personnel, c'est vrai sur le plan familial, c'est vrai sur le plan sociétal, eh bien, mes amis, on s'en trouve bien. On s'en trouve bien. Oui, la foi, c'est une affaire d'obéissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui a rédigé bien des textes de la Bible, il parlera de l'obéissance de la foi. Et le vrai chrétien, eh bien, c'est celui, justement, qui désire plaire à Dieu en toutes choses, cherchant à faire sa volonté, qu'il a exprimée dans la Bible, qui est sa parole. Voilà pourquoi il faut lire la Bible, entre parenthèses. Pas pour faire un devoir religieux, pas pour dire, eh bien voilà, j'ai fait ma BA quotidienne, j'ai lu la Bible. Mais pour apprendre au travers de la lecture de la Bible ce que nous devons faire ou ce que nous devons ne pas faire. Et c'est comme ça que Dieu nous éduque. Vous savez, le mot disciple, Jésus a dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ok. Le disciple, le sens précis du mot disciple, le disciple c'est un écolier ou encore un étudiant ou encore un apprenti. C'est quelqu'un qui se place à l'école d'un maître. Le maître en l'occurrence étant le Seigneur Jésus. Et les consignes du maître sont inscrites dans la Bible qui est la parole de Dieu. C'est pour ça vous qui faites vos premiers pas dans la foi, il est important que vous lisiez la Bible régulièrement et que vous appreniez ce que Dieu attend de vous et qu'ainsi vous avanciez dans une vie d'obéissance. Et oui, et puis la foi, c'est une question d'obéissance, mais d'obéissance persévérante. Vous voyez ? Hein ? Voilà. Aujourd'hui, ça aussi, c'est une notion qui est quelque peu oubliée. Négliger, voyez, la persévérance. Les gens qui s'accrochent, qui en veulent, qui vont jusqu'au bout. Regardez, le Tour de France se termine aujourd'hui. Hein. Ces gars-là qui courent sur un vélo pendant combien, 3 semaines, ils sont remarquables. Ils ont fait preuve de persévérance, parfois sous le soleil. Hein. D'autres fois, il faut monter d'école, c'est pénible, le cœur bat dans la poitrine, on s'essouffle, mais ils ont persévéré. Ceux qui ont persévéré, eh bien, tout à l'heure, franchiront la ligne d'arrivée là-bas sur les Champs-Élysées. Eh bien, c'est un petit peu comme ça, la vie chrétienne, vous voyez. C'est bien de partir, mais c'est mieux d'arriver. Vous ne trouvez pas? D'ailleurs, la Bible le dit, mieux vaut la fin d'une chose plutôt que son commencement. Dans un passage de la parole de Dieu que je voudrais vous lire, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 35, justement, nous sommes engagés à persévérer. Hébreux, chapitre 10, et le verset 35. Ça y est, je vais y arriver. Hébreux, chapitre 10, verset 35. Excusez-moi. N'abandonnez donc point votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense. La récompense, la rémunération, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Car vous avez besoin de persévérance, voilà. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, le ciel, le royaume des cieux, quoi, ce qui vous est promis. Encore un peu. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Jésus reviendra bientôt et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est Dieu qui parle. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, et j'ajoutais la persévérance qui va avec, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà. Hein? Allez jusqu'au bout, parce que c'est vrai, ne soyons pas de ceux qui abandonnent en cours de route. Oui, Seigneur, dans un texte de l'Écriture, Seigneur Jésus parle de ceux qui reçoivent la parole de Dieu aussitôt et avec joie, tout feu, tout flamme. Dès la première ou les premières réunions, ils sont tout enthousiasmés. Oui, mais, dit Jésus, ils n'ont pas de racines, il n'y a pas de profondeur. Pas de profondeur. Ils croient, mais pour un temps seulement. Et dès que survient une épreuve, parce que la vie chrétienne est aussi faite d'épreuves, ils y trouvent une occasion de chute. Non, ne soyons pas de ceux-là, de ceux qui sont tout feu, tout flamme, mais de ceux qui persévèrent, qui vont jusqu'au bout. Alors, obéissons. Hein, des gens qui disent, oh là là, mais obéir, ça va être difficile. Obéir à Dieu, vous rendez compte? Obéir à Dieu, faire sa volonté, bouh, mais j'y arriverai jamais quand je lis la Bible, que je regarde tout ça, mais je me sens dépassé. Mais le Seigneur nous vient en aide. Amen. Hein? Il n'attend pas de nous des exploits, mais il attend de nous que nous lui fassions confiance pour que lui-même nous communique la force de vivre à la hauteur de ses exigences. N'est-ce pas? Il dit ceci, 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, consiste à garder, c'est-à-dire à obéir à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Vous voyez ? Seigneur, je ne veux pas m'efforcer d'obéir simplement avec mes forces personnelles, avec mon énergie, avec ma bonne volonté. Il en faut de la bonne volonté. Mais je suis conscient que ça ne suffit pas parce que je suis pétri de faiblesse. J'ai besoin de toi. Alors je place en toi ma confiance et la foi. Et la force que je n'ai pas, c'est toi qui me la donnes. Amen. Et c'est comme ça qu'on arrive, n'est-ce pas, à avancer sur ce chemin. La vie chrétienne, c'est une aventure périlleuse. C'est vrai. Mais la grâce, l'aide, le secours de Dieu nous sont assurés en Jésus-Christ. Sur ce chemin resserré dont nous parlons, Nous ne sommes pas seuls à nous débattre dans nos luttes, nos épreuves ou nos tentations. Il y a des paroles formidables dans la Bible. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Le psalmiste qui a rédigé le psaume 23, le roi David, écrira « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il y a des moments dans la vie, c'est sombre. On est comme au fond d'un précipice là. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ailleurs, hein, il est dit ceci dans un autre psaume. Hein, l'Éternel, eh bien, garde les pas de l'homme. Et s'il tombe, il prend plaisir à sa voix. Il l'affermit. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé parce que l'Éternel le prend par la main. Même quand nous faiblissons, ça peut arriver. Le Seigneur ne nous rejette pas pour autant, mais il nous tend une main secourable pour nous relever, nous remettre en piste, si je puis dire. L'apôtre Paul dira, je suis persuadé, vous voyez, s'adresser à des chrétiens nouvellement convertis, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous nous sentons faiblir, hein, des fois on sent que la pression des événements, les tentations sont si fortes là autour de nous. Ah, on est sur le point de défaillir, de tomber dans le mal. On ne voudrait pas, mais ah. Alors il faut appeler au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Et il nous vient en aide au bon moment. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. D'autant plus que Jésus dans le ciel, que fait-il? Il prie le Père, Dieu, en notre faveur. Hein? Verset de l'Écriture dit que Jésus Il peut sauver parfaitement, parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder, c'est-à-dire pour prier en leur faveur. Voilà, dans le ciel, Jésus prie pour toi. Gloire à Dieu, hein? Voilà. C'est pas Marie qui prie pour toi, non, laissez-la tranquille, la pauvre, hein? Elle est dans le ciel, dans la présence de Dieu, elle n'a que faire avec ce qui se passe sur la terre. Mais Jésus, lui, il a accès dans le ciel et sur la terre, les deux à la fois. Et dans le ciel, il est le seul, qui puisse intervenir auprès du Père en notre faveur. Et il n'y a aucun autre intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il fait bien son travail. Et son intercession, sa prière, elle est toujours suivie des faits. Alléluia! Vous savez, un jour, il a prié pour Pierre, l'apôtre Pierre, hein, qui ne se savait pas aussi faible qu'il était. Il croyait être fort et il ne l'était pas. Mais Jésus voyait clair et il connaissait le personnage. Vous savez, ils nous connaissent tous. Hein. Même ce que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, lui le connaît. Et il a dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et c'est vrai que s'il y a eu un fléchissement passager dans la vie de Pierre, à un certain moment, quand même, sa foi n'a pas fléchi totalement et il s'est ressaisi. Et tout ça, parce que Jésus avait prié pour lui. Alors, nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Hein? En conclusion de tout ça, eh bien, il faut faire confiance à notre Dieu. Faire confiance pour avancer sur ce chemin resserré, après avoir franchi la porte étroite qui conduit à la vie éternelle. Ça vaut quand même la peine, non? D'aller au ciel, de connaître la vie éternelle et déjà sur la terre, d'avoir la présence de Dieu avec nous. Et aller au ciel, voilà, ça n'est pas inaccessible. Voyez, là-haut dans le ciel, ce n'est pas des gens exceptionnels, mais alors des gens tellement exceptionnels qu'il y en a peu, très peu. Non, le ciel est accessible à tous ceux qui le voient, tous ceux qui le veulent, à condition qu'ils s'apprêtent à remplir ces conditions que nous avons énumérer cet après-midi. Si nous faisons ainsi, il saura nous conduire à bon port. Amen. Et nous qui marchons, qui vivons avec le Seigneur depuis un certain nombre d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien nous pouvons vous dire avec assurance, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est patient, et c'est lui qui nous tient par la main, en quelque sorte, disons-le comme ça, pour nous permettre d'avancer sur le chemin. Et ce qu'il a fait pour les uns, il le fera aussi pour les autres. Alors mettez votre foi en Jésus cet après-midi, dites « Ok, d'accord, je veux passer par la porte étroite. Là, je réalise, je suis un pécheur, j'ai offensé Dieu. Seigneur, tu as dû mourir sur la croix pour moi, pour mes péchés. Eh bien, pardonne-moi, je t'en prie. » Et faisant ainsi, vous passez par la porte étroite. Et après, vous vous engagez sur le chemin. Et jour après jour, jour après jour, jour après jour, jusqu'à la fin de votre vie, vous cheminez sur ce sentier, resserré, c'est vrai, difficile à certains égards, c'est vrai, mais sur lequel le Seigneur vous accompagnera jusqu'au bout, parce qu'il est fidèle. Amen. Allez, on prie quelques instants.